This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte the wear en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason l'histoire ou quand le jazz retrouve ses repères. Une émission préparée, proposée par Alain Vaquier, Gérard Viols, mise en onde de Bruno Bertrand. Une année catastrophique, on a évoqué évidemment Tchernobyl, mais vont survenir des événements qui vont directement toucher la France, ou d'autres comme celui-ci, qui bien que n'ayant pas lieu en France, aura à la fois des répercussions et des solutions qui n'en seront pas, ce sera l'assassinat d'Olof Palme.
L'actualité de ce matin avec l'assassinat d'Olof Palme. Le Premier ministre suédois a été abattu hier en pleine rue à Stockholm, alors qu'il sortait du cinéma. Il a été abattu par un homme qui a tiré sur lui avec un revolver. Il n'était accompagné, le Premier ministre suédois, M. Olof Palme, n'était accompagné d'aucun garde du corps. A priori, pas de menace récente. Il n'y a pas eu non plus de revendication de cet assassinat. Il est bien difficile de savoir donc qui a pu le perpétrer. Deux personnes ont été arrêtées, mais elles vont être relâchées très prochainement. Alors tout de suite, les faits, Philippe Rochaud.
Olof Palme sortait du cinéma ici avec son épouse comme n'importe quel citoyen suédois. Il était 23h et il regagnait à pied son domicile. Son assassin lui a tiré deux balles dans le dos avant de prendre la fuite à bord d'une Volkswagen. La police, qui a cru au début à une simple rixe, a mis du temps à se déplacer. Transporté à l'hôpital Sabbatsberg, Olof Palme est mort une heure plus tard. Trois personnes ont été témoins de son assassinat, un chauffeur de taxi et deux jeunes filles. Lisbeth Palme, son épouse, légèrement blessée dans l'attentat, affirme que l'homme qui a tiré était brun, qu'il avait une quarantaine d'années. Deux suspects ont déjà été interpellés. L'un d'eux possédait un plan détaillé du carrefour où le premier Suédois a été assassiné et où un citoyen anonyme a déposé cette rose. Olof Palme faisait partie de ces hommes dont on pense qu'ils n'ont pas d'ennemis. Pourtant, la police cherche dans plusieurs directions, et d'abord chez les Oustachis, les milieux croates d'extrême droite, auteurs de l'assassinat de l'ambassadeur de Yougoslavie à Stockholm, et pour lequel un membre de cette organisation, Miro Barezic, est toujours détenu en Suède. Il avait été échangé en 72 contre les 86 passagers d'un vol intérieur suédois à l'occasion d'une prise d'otage, puis arrêté aux États-Unis et extradé vers la Suède. Les Suédois ont déposé des cierges sur les lieux de l'attentat et des fleurs au domicile de leur Premier ministre. Le roi de Suède, Charles XVI, a rendu hommage à l'œuvre du Premier ministre Olof Palme, laissant entendre que la Suède n'était pas à l'abri des assassinats et qu'il était difficile de lutter contre ce genre d'action. Le vice-premier ministre Ingvar Carlsson, qui va assurer l'intérim, a présidé un conseil extraordinaire à 1h ce matin, mais n'a pas voulu révéler les différentes pistes qu'allait suivre la police suédoise pour tenter de retrouver la trace des assassins d'Olof Palme.
Olof Palme, un chef de gouvernement comme on aurait en voir souvent, vous l'avez entendu, donc un monsieur qui se déplaçait comme tout le monde et qui circulait donc aller au cinéma avec sa femme, comme vous, comme moi. Et pourtant, cela sera la cause de son assassinat, car en effet, aucun garde du corps, aucune protection. Et à partir de là, eh bien, tout est permis et on a supposé, et pour l'instant, encore aujourd'hui, on ne sait pas véritablement qui est à l'origine de l'assassinat d'Olof Palme. Alors, eh bien, pour en revenir sur les faits, Olof Palme va donc au cinéma Grand, dans le centre de Stockholm, et il va voir le film Broderna Mozart. On pourrait supposer que, à partir de là, tout va se dérouler normalement. À sa sortie, il se retrouve dans la rue pour rejoindre sa voiture. Et là, eh bien, un homme l'attend et va tirer deux balles, non pas de face, mais dans le dos. Ce qui permettra à l'assassin présumé, et qu'il dira, parce qu'il fera des aveux plus tard, mais on en reviendra là-dessus, que de toute manière, il ne sera jamais inculpé, puisqu'on ne pourra pas retrouver l'arme qui a été perpétrée pour cet assassinat. Alors évidemment, le peuple suédois est énormément choqué, et vous le savez, en Suède, c'est une royauté, Donc le roi va, lui, vous l'avez entendu, faire un hommage, et quel hommage, à ce monsieur exceptionnel qui sera durant 4 mandats chef du gouvernement et qui n'aura de cesse de défendre des causes perdues pratiquement, notamment l'apartheid. Ce sera un des plus virulents chefs d'État contre l'apartheid en Afrique du Sud. Vous l'avez entendu, ce sera également, il va s'opposer donc au Oustaki par rapport à ce qu'on vous a indiqué. Il va déclencher carrément un problème judiciaire avec l'Inde en parlant de corruption pour un groupe suédois qui, lui, aurait versé des royalties, et quelles royalties, on n'ose même pas dire la somme, devinez à qui, au Premier ministre d'Inde, qui a pour nom Gandhi, il est de la famille Gandhi. C'est vous dire que ce monsieur a marqué de son empreinte toute l'histoire de la Suède et presque toute l'histoire de l'Europe. Pendant ce temps, eh bien, on en arrive au jazz, et le jazz, lui, on est en pleine révolution. Après, effectivement, on va dire, les prestations de Miles Davis électrique qu'on a écoutées, on est dans une phase où le jazz prend une direction tout à fait différente dans ce qu'on appellera le jazz fusion ou le jazz rock. Et l'archétype du jazz fusion, c'est bien sûr le groupe Steps Ahead. Steps Ahead, self-portrait. Alors évidemment, la police est immédiatement ou presque immédiatement, ça demandera qu'il y ait une demi-heure pour être sur les lieux. Et sur les lieux, eh bien, à part trois témoins qui peuvent apporter tant soit peu d'illustrations de ce qu'ils ont vu, un chauffeur de taxi, donc évidemment la femme d'Olaf Palme, mais également sa fille était présente, mais elle est déjà partie avec son mari, donc il n'y a plus que pratiquement rien à trouver. Sauf, on va retrouver sur les lieux quand même les balles qui ont servi. Ce sont des balles donc de tout simplement d'un type 357 Magnum, donc c'est pas un truc pour chasser le papillon quand même. Et effectivement, on va donc commencer l'enquête en se disant que il va bien falloir qu'on retrouve le revolver qui a servi à cela. Et la police décide donc de recenser tous les 357 Magnum connus. Alors ils vont commencer à faire leur recherche. Et ils vont aboutir au fait que sur les 140 qui se trouvent effectivement en Suède, il y en a 17 qui ont été volés et ils vont s'orienter plutôt vers ce genre de, on va dire, de revolver. Mais il y a quand même un problème, c'est que eh bien, le soi-disant supposé assassin, lui, a fait disparaître l'arme. Par conséquent, impossible de le retrouver. On a donc quelques éléments qui vont permettre de retrouver cet assassin. Et évidemment, ce sera donc Madame Palme qui, elle, sera la plus habilitée à pouvoir témoigner. Elle va donc déclarer différentes choses. Et l'orientation, à partir d'un portrait robot, va faire qu'on va décider, la police va décider qu'elle a pratiquement trouvé le coupable. Il s'agira donc de Christophe Peterson, qui est un déséquilibré, dira-t-on, qui avait dit qu'il serait le bras droit de Palme, il s'appelait ainsi, et qui est à la fois alcoolique et drogué. Et également, il claudique, ce qui fait que Madame Palme déclare à la police qu'elle craint que ce ne soit pas lui, dans la mesure où elle peut témoigner que, effectivement, l'assassin s'est enfui en courant. Donc, première controverse et premier contre-témoignage à preuve de ce qui a été prouvé par la police. Et évidemment, la police, ayant trouvé un suspect, va en faire immédiatement un coupable. Ce coupable, ce sera donc Christophe Peterson. Il va donc passer au tribunal. Et comme, effectivement, on n'a pas trouvé l'arme du crime, eh bien, il va être acquitté. Tout simplement parce que, faute de preuves, on va, au cours de multiples procès, revenir à chaque fois à charge en faisant valoir que c'est vraisemblablement lui l'assassin, jusqu'au moment où, bien, en coup de théâtre, il va faire des aveux. Il faut savoir que cette enquête a été une enquête qui a été la plus onéreuse qui ait effectuée la Suède. Elle va coûter un demi-milliard de couronnes suédoises. Elle va durer pratiquement jusqu'en 2011, c'est-à-dire 86-2011, elle n'est toujours pas terminée et on ne sait toujours pas qui a vraiment assassiné Olof Palme. Toujours est-il que eh bien, Christophe Peterson, lui, va passer aux aveux.
Presse. L'assassin du Premier ministre suédois Olof Palme a-t-il été démasqué ? Après plus de 2 ans d'enquête, un homme de 41 ans est toujours en garde à vue à Stockholm, mais il n'a pas été formellement inculpé. Emmanuel Vanier.
Enfin, un visage sur ce portrait robot. La police suédoise est persuadée de tenir l'assassin d'Olof Palme, le premier ministre abattu par balle il y a 3 ans à Stockholm. Christer Peterson, 41 ans, a été arrêté mercredi. Il nie les faits, mais les enquêteurs disent détenir de nombreux indices contre lui. Christer Peterson est, comme on dit, très bien connu des services de police. Déjà 63 inculpations, dont une pour meurtre à son actif. Le procureur a réclamé son inculpation pour le meurtre d'Olof Palme.
15 ans après l'assassinat d'Olof Palme, le Premier ministre suédois, un homme vient de reconnaître avoir commis ce meurtre qui avait provoqué une très vive émotion à l'époque dans toute l'Europe. Christer Peterson avait été condamné puis acquitté. Il avait toujours nié les faits. Ce coup de théâtre et ses aveux pourraient entraîner l'ouverture d'une nouvelle enquête. Fabrice Hoss.
Cet homme, Christer Peterson, filmé par la police il y a 15 ans, vient d'avouer. Il assure avoir tué le Premier ministre suédois Olof Palme en 86. Olof Palme, ancien leader du Parti social-démocrate, était alors un leader politique historique, quatre fois chef du gouvernement. Son meurtre n'a jamais été élucidé, malgré les forts soupçons qui ont pesé sur Christer Peterson, un marginal alcoolique et toxicomane. Mais faute de preuves, son acquittement est prononcé à l'issue du procès en 89. Son aveu est un coup de théâtre. Dans un quotidien suédois, il vient de déclarer « C'est moi qui ai tiré, mais ils ne m'inculperont jamais pour cela, car l'arme a disparu. » La police, elle, reste méfiante.
C'est un article publié dans un journal, et cet article peut conduire à une nouvelle enquête, c'est tout ce que l'on peut dire.
Olof Palme a été abattu à bout portant, ici, à la sortie de ce cinéma de Stockholm. Appelé à témoigner à la barre, son épouse avait formellement identifié Christer Peterson. Aujourd'hui, elle ne cache pas sa colère, car faute de mobile et d'armes du crime, les juges de la cour d'appel avaient acquitté Peterson. 15 ans après les faits, ces révélations devraient provoquer la réouverture du dossier Olof Palme.
Et oui, ce dossier est un dossier à rebondissement, comme je vous ai indiqué, car dès le lendemain de l'assassinat, on va découvrir un autre suspect. Il a pronom Victor Gunnarsson, et figurez-vous que ce suspect va être soupçonné de l'assassinat d'Olof Palme, tout simplement parce qu'il était la veille dans un café où il va donc draguer une jeune femme et il va lui indiquer qu'il a la haine d'Olof Palme et il va lui donner une carte de visite. Donc on aura un premier soupçon, c'est elle qui va téléphoner à la police en disant « Hier soir, je me suis fait draguer par un individu assez bizarre. Qui m'a indiqué sa haine d'Olof Palme ? Qui m'a donné sa carte de visite ?» Et donc, effectivement, avec le nom et l'adresse, il est facile de retrouver le présumé coupable. Toujours est-il que on va donc mener une enquête autour de ce monsieur et dès le lendemain, il va être relâché. Alors, à partir de là, on commence à s'interroger, à savoir qui pourraient être les ennemis d'Olof Palme. Et c'est vrai, comme je vous l'ai indiqué, qu'on peut soupçonner un tas de gens. Les Oustakis, comme on l'a expliqué, notamment, on va également, il faut le dire, s'interroger un peu si ce ne serait pas les services secrets d'Afrique du Sud, tout simplement, si ce ne serait pas, même pourquoi pas, la police, parce que dans la police, on le verra, il y a aussi un corps d'extrême droite qui n'aime pas beaucoup Olof Palme. Et puis, tout fera en sorte qu'il y aura tellement de nébuleuses autour qu'on ne saura jamais ce qu'il en est. Mais dans le domaine du jazz, je vous parlais de jazz fusion. Cette fois-ci, on va retrouver le jazz rock, comme on l'appellera, avec John Scofield, qui, après son passage chez Miles Davis, n'a pas oublié. We'll be right back. Alors effectivement, donc revenons au cas Olof Palme et son assassinat. Et c'est vrai que l'Afrique du Sud va être fortement soupçonnée parce que les services secrets sud-africains ont été un peu alertés par le gouvernement, notamment de la virulence des propos d'Olof Palme, justement par rapport à l'apartheid en Afrique du Sud. Et il faudra attendre là aussi bien des années avant que, eh bien, on ait des révélations cette fois-ci de membres éminents de la police sud-africaine.
La piste sud-africaine dans l'assassinat d'Olof Palme. Le premier ministre suédois avait été assassiné il y a 10 ans. Depuis, beaucoup d'hypothèses ont circulé, mais l'enquête n'a jamais abouti. Cette fois, d'anciens membres des services secrets sud-africains ont décidé de régler des comptes et de tout raconter. Les explications de Zindine Boudaoud.
Une épine dans le pied de l'apartheid, Olof Palme était perçu comme cela par le régime de Pretoria. Proche de l'ANC, le premier ministre suédois était le leader occidental qui voulait mener le plus loin les sanctions contre l'Afrique du Sud. Voici pourquoi les services spéciaux sud-africains l'auraient éliminé. Telles sont les accusations de l'ancien chef de la police secrète de l'apartheid, le colonel Eugène de Kock, jugé en ce moment à Pretoria pour d'autres crimes. De Kock, ici sur ces images d'archives, accuse notre espion, le commandant Greg Williamson, d'avoir participé à l'assassinat d'Olof Palme. L'opération, explique De Kock, s'inscrivait dans le cadre d'un programme baptisé Bras Long, visant à éliminer les opposants au régime discriminatoire. Aujourd'hui, Greg Williamson est retiré des affaires. Il reconnaît sa participation à plusieurs opérations, mais pas au meurtre d'Olof Palme. Mais hier, le prédécesseur de De Kock, à la tête des escadrons de la mort sud-africains, cite aussi le nom de Williamson. Dirk Kotze livre même le nom d'un autre agent qu'il présente comme l'assassin. Deux anciens collègues de Williamson qui participaient à l'opération Bras Long m'ont expliqué qu'ils étaient impliqués dans l'assassinat d'Olof Palme. Et ils m'ont donné le nom, un nom, celui d'Anthony White, qui est réfugié actuellement au Mozambique. On m'a dit qu'il était le meurtrier d'Olof Palme. La piste sud-africaine avait déjà été exploitée en vain par les enquêteurs suédois à les relancer. Jusqu'à présent, 10 ans après l'assassinat d'Olof Palme à la sortie d'un cinéma de Stockholm, c'est la piste de policiers suédois d'extrême droite qui était privilégiée.
Et oui, piste également, comme vous l'avez indiqué ici, de policiers d'extrême droite sous le nom de la Ligue de baseball, tout simplement. Elle était composée de policiers ayant des idées d'extrême droite. On les soupçonne aussi d'avoir eu un rôle important dans l'assassinat de Mr. Palme. Mais également, il faut savoir que des trafiquants d'armes sont également impliqués. Peut-être, on ne sait pas, parce qu'il y a eu la fameuse affaire Bofors. C'est une importante affaire de corruption en Inde en 1986. Le groupe suédois d'armement avait versé plus de 40 millions de dollars en pot de vin à des politiciens indiens, parmi lesquels le premier ministre indien Rajiv Gandhi, le fils de Indira Gandhi. Et il s'agissait là de la vente de 410 obusiers de campagne qui n'ont... On n'a jamais su trop ce qui s'était passé. Et il faut dire que d'ailleurs, Rajiv Gandhi, lui, il sera lui-même assassiné, mais ce sera en 91. Décidément, ça portait pas chance à la corruption, quel que soit et à quel niveau que ce soit. C'est ainsi qu'on va devoir terminer cette émission sur Olof Palme, peut-être qui aura rafraîchi la mémoire de beaucoup et notamment la mienne, car ce phénomène était quelque peu passé, non pas totalement inaperçu, mais presque n'ayant pas vraiment un grand retentissement dans l'histoire, car l'histoire effectivement est faite de nombreuses histoires. On va terminer cette illustration évidemment avec quelque chose de beaucoup plus jazzy, avec celui qui est encore le dinosaure du jazz, avec Sonny Rollins en 90, avec le thème Kim. We'll be right back. Ainsi se termine donc Jason l'Histoire. Nous retrouverons cette émission avec cette fois-ci des événements beaucoup plus français.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense j'ai ouvert en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.